Chapitre 7. Soigner l'arbre familial. Sortir de la maison où tout va mal. Voir page 48. Dans ce premier type de foyer, les époux ont pris toutes sortes d'options, sauf celles qui viennent de Dieu. En rejetant l'auteur du mariage, ils se sont placés sur une pente dangereuse. Dans ce monde meurtri où les humains se mentent et se déchirent, le diviseur règne en maître. Infidélité et mensonge conduisent à la rupture. Dette et désillusion en sont la triste conséquence. Pour voir une résurrection, il faut donner à Dieu les morceaux brisés de nos existences. Jésus est venu nous arracher des mains de celui qui saccage nos vies. Pour nous sauver, il a vécu l'enfer de la crucifixion. Un amour aussi total exige une réponse radicale. C'est un choix qui changera votre vie et celle de vos enfants. Dieu vous libérera du poids du passé. Si vous n'avez pas encore pris cette résolution, vous pouvez le faire maintenant. Dites-le simplement avec vos propres mots. « Père, je te donne ma vie brisée. Prends-la, transforme-la, sois-en le maître. Pardonne mon passé, change mon cœur. » Pour sauver un mariage brisé, le premier pas consiste à revenir à Dieu. Bien sûr, la reconstruction d'un couple ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais c'est le point de départ d'une vraie convalescence. C'est un chemin où vous ne serez plus seul. J'en parlerai plus en détail dans les chapitres suivants. Dieu peut guérir vos blessures et vous donner des clés pour reprendre le terrain que l'ennemi a volé. Nombre de couples ont été restaurés en changeant de maître. Cependant, si, malgré votre persévérance dans la prière, votre mari refuse la vie commune, la Bible nous donne cette parole. Si le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien qu'il le fasse. Dans ce cas, la sœur ou le frère ne sont pas liés. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. 1 Corinthiens 7, verset 15. Des solutions pour la maison divisée, voir page 49. En considérant les habitants de la deuxième maison, il semble que les problèmes ne sont pas tous résolus par la conversion de l'un des partenaires, loin de là. Dans ce foyer, Hélène est prête à tout abandonner. Depuis qu'elle a choisi de suivre Christ, tout va de travers. Elle tient bon à cause des enfants. Y a-t-il d'autres étapes pour restaurer l'entente et devenir la meilleure amie de votre mari? C'est en écoutant le témoignage de l'épouse d'un ministre qu'Hélène reçoit un nouvel éclairage. La réalité du combat spirituel est la nécessité de démontrer l'amour par les actes. Elle comprend que deux forces s'affrontent au sein même de son foyer, celle de Christ et celle du malin qui s'efforce de détruire son couple. Elle incite son mari à mal se conduire afin de le soustraire à l'influence et aux prières de son épouse. Cette femme de ministre témoigne qu'en s'en prenant à son époux, elle se trompait de cible. Ses colères, face aux infidélités de son mari, n'aboutissaient qu'à les séparer un peu plus. En fait, il était si englué dans la convoitise qu'il ne se rendait même plus compte de sa conduite. Aussi a-t-elle commencé à jeûner et à prier pour lier l'esprit d'impureté qui contrôlait son mari. De plus, cette femme de la haute société a décidé de changer d'attitude. D'ordinaire autoritaire et soupe au lait, elle innove radicalement. Elle répond à l'agressivité par la douceur, à l'égoïsme par la bonté, au mépris par la patience. Elle appelle cela « agir dans l'esprit opposé ». Par exemple, lorsque son mari rentre, elle l'accueille avec gentillesse, en lui offrant un rafraîchissement, le laissant tranquillement se plonger dans son journal. Elle se montre de bonne humeur durant les repas au lieu de les assaisonner de remontrances et de plaintes. Elle s'enquiert de ses projets ou lui demande des nouvelles de la dernière séance ministérielle. Elle reprend plaisir à se faire belle, à se parfumer. Ce ministre en est sidéré, quelle révolution! Plus de reproches, une épouse prévenante et souriante. Après 15 jours à ce régime, il s'exclame : « Si c'est ça le christianisme, Alors je t'accompagne à l'église dimanche prochain. Le combat spirituel de cette épouse et son nouveau comportement ont réussi à ébranler l'indifférence de son mari. Suite à ce témoignage percutant, Hélène réfléchit sur sa propre situation. Lorsque Luc rentre tard le samedi soir, elle lui fait une scène terrible. Le lendemain, elle le punit en le boudant ou en l'accablant de reproches, et bien sûr, elle refuse toute relation conjugale. La situation ne fait qu'empirer. Sans s'en être rendu compte, elle a fait le jeu de l'ennemi. Luc fuit le domicile conjugal. Maintenant, elle réalise que son combat ne se situe pas à un niveau humain contre son mari, mais contre des puissances, les pouvoirs du monde de ténèbres. Éphésiens 6, verset 12. La victoire est cependant possible car le Seigneur qui vit en elle est bien plus puissant que les forces du mal qui agissent dans le cœur de son mari. 1 Jean 4, verset 4. Ainsi éclairée, elle reprend courage et s'engage dans la prière. La situation reste chaotique, mais elle persévère et surmonte le mal par le bien. Lorsqu'il rentre tard, plus de scène. Elle reste tranquille et, dans le secret de son cœur, redouble de prières pour lui. Son engagement dans le jeûne et la prière lui donne le courage d'adopter, elle aussi, un nouveau comportement. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Matthieu 5, versets 43 à 45. Cet amour inconditionnel est une perspective radicalement nouvelle. Sans Dieu, c'est impossible à vivre, mais avec son aide, c'est souverain pour abattre les murs de division. Hélène prie pour recevoir cet amour manifesté à la croix. Dès lors, son arme secrète est le service, un langage d'amour silencieux qui rejoint Luc. Après tout, l'apôtre Pierre ne dit-il pas que l'on peut gagner son conjoint sans parole, rien que par sa conduite, en ayant une attitude respectueuse et pure? 1 Pierre 3, versets 1 et 2. Le soin qu'elle apporte à la tenue de sa maison, à ses repas, ouvre les yeux de son mari. Il réalise qu'il est toujours aimé. Elle commence à voir un changement. Il l'autorise même à aller à l'église une fois par semaine. La situation ne s'est pas améliorée du jour au lendemain, mais petit à petit, il s'est ouvert à l'action de Dieu. La majeure partie d'un iceberg est immergée, cachée des regards. De même, la conquête ou la reconquête de notre mari reste discrète. Elle se produit dans la prière. La pointe visible de l'iceberg est toute pratique. Ce sont la beauté, le service, un caractère aimant qui font la différence. La force de cette attitude plonge ses racines en Dieu et non dans la multitude des réunions chrétiennes. Certes, celles-ci sont un apport de vitamines, mais elles doivent être soigneusement dosées afin de ne pas détruire l'équilibre du couple. Si elles prennent une trop grande place dans l'emploi du temps familial, elles peuvent provoquer un réel blocage chez le conjoint non converti. Dieu sait nous inspirer pour bénir notre époux. Donnez et il vous sera donné. Les mathématiques de Dieu sont étonnantes. Elles n'ont rien d'un froid calcul. En vivant à leur écoute, on devient un témoin percutant, rempli d'amour et de sagesse. Retrouver la vie dans la troisième maison, voir page 50. Son chien est mieux traité qu'elle. Lui, au moins, a droit aux confidences de son mari. Gabrielle vit sans communication avec un mari chrétien. Un jour, elle décide enfin d'en parler à l'épouse du pasteur. Après l'avoir longuement écoutée, celle-ci lui suggère de commencer par dresser la liste des bonnes choses que son mari fait pour elle. Dans sa frustration, elle n'en voit aucune, mais sa conseillère l'aide à faire sa liste. Il est fidèle et ne l'a jamais trompée. Il ne boit pas et ne dépense pas l'argent du ménage pour ses passions. Il tient ses promesses et ne ment pas. Il aime ses enfants et se montre bon père de famille. Il est méticuleux et respecte l'ordre qu'elle fait. Il ne l'a jamais frappée, même si la violence en parole peut parfois l'emporter. Elle lui propose de remercier Dieu pour ses bons côtés, puis de transformer cette prière en lettre adressée à son mari. Celle-ci serait ainsi conçue. Elle lui exprimerait les qualités qu'elle voit en lui, elle lui rappellerait les bons moments de leur vie commune et ce qui les avait attirés l'un vers l'autre. Elle continuerait sa missive en lui disant aussi ce qui la fâche et la fait souffrir. Le manque de communication, le sentiment d'injustice dans la répartition des tâches, l'impression d'être insuffisamment remerciée pour son dévouement. Pour être entendue par son époux, elle éviterait les phrases commençant par un tu accusateur. Elle veillerait à s'exprimer à la première personne. Voilà ce que je ressens lorsque, ce que j'éprouve quand, ce que je perçois. En effet, une accusation de paresse, de froideur ou d'égoïsme ne fait qu'inciter le partenaire à se justifier, donc à se fermer à la souffrance de l'autre. Chacune de ces phrases devrait comporter un honnête je. De plus, ces reproches devraient se référer à des faits précis, évitant le piège des accusations vagues ou trop catégoriques du style tu n'es qu'un égoïste, tu ne fais jamais rien, la seule chose qui t'intéresse, c'est ton chien. Non, il faudrait rester spécifique, s'en tenir aux faits, sans ajouter de commentaires blessants. En rentrant hier, lorsque j'ai vu la table non débarrassée, cela m'a découragée. Je me suis sentie abandonnée. Après ce bilan positif et négatif, elle pourrait dire ce qu'elle attend de lui. Après tout, en s'exprimant sans crier ni attaquer, elle risquait d'être entendue. Il s'agirait de donner des souhaits précis, définis dans le temps. Pendant un mois, j'aimerais que le samedi, tu m'accompagnes au supermarché pour m'aider à faire les courses. Les qui, quoi, quand, où seraient clairement précisés dans sa requête. Elle terminerait sa lettre en lui disant ses regrets de s'être mise si souvent en colère et d'exploser avant même qu'il n'ait la possibilité de s'exprimer. C'était la première fois qu'elle allait s'ouvrir ainsi. Dans cette lettre, elle acceptait d'être vulnérable. Comment allait-il réagir? En la lisant, André a été touché. Il n'avait pas reçu un message aussi profond et sincère de sa femme depuis 20 ans. Il lui a demandé un délai pour répondre. À son tour, aidé par le pasteur, il lui a écrit ce qu'il appréciait chez elle. Son honnêteté, son dynamisme, son engagement. Il lui a confié aussi comment il vivait les choses. Il s'était senti parfois méprisé. Il était surtout très découragé parce qu'il ne savait plus du tout comment redresser la situation. Il lui a exprimé également ses attentes tout en lui montrant le respect qu'il avait pour les siennes. Un amour vraiment concret. Tous deux se sont mis d'accord pour faire un essai de 4 semaines pendant lesquelles chacun s'engagerait à honorer les désirs de l'autre. Elle a accepté de mieux s'occuper des repas qui avaient souffert de leurs différends. Quant à lui, chaque samedi, il l'a aidé à faire les achats. Ils se sont retrouvés pour boire un café comme au temps de leurs fiançailles. Elle en a été comblée. Cela lui a permis de bavarder librement de tout et de rien avec lui. Ses petits pas signifiaient « Tu as suffisamment d'importance à mes yeux pour que je me donne la peine de te faire plaisir. » À la fin de cette période d'essai, ils ont fait le point et se sont aperçus que rejoindre l'autre n'est pas une mission aussi impossible qu'ils l'auraient cru. Cela a été le début d'une guérison. Où vous situez-vous? Si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces foyers, vous avez certainement le désir de vivre une pleine guérison et d'habiter la quatrième maison où vous pouvez ensemble être un témoignage pour vos enfants et votre entourage. Dans le chapitre suivant, je complète ce thème en abordant la question des héritages spirituels. Ce sujet nous est souvent peu familier. Il est pourtant au cœur de l'harmonie des relations familiales.